Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand on considère les injonctions du baptiste, c'est clair, il faut que ça change. D'autant que ces injonctions, il ne se contente pas de les marmonner ou de nous les évoquer au secret, dans le secret d'une alcôve. Il le crie, cette nécessité de se réformer, il, nous dit-on dans l'Évangile, il la hurle. C'est la voix qui crie dans le désert. Alors quand parvient cet Évangile d'aujourd'hui, cette injonction du baptiste à nos oreilles, nous pouvons, je crois, tomber dans deux types d'erreurs. Soit nous sommes comme des ouvriers un petit peu lassés d'entendre le contremaître et sa voix éraillée nous ordonner les grands travaux, parce que c'est de grands travaux qu'il s'agit, vous savez, rendre droit les chemins, combler les vallées, aplanir les collines, voilà, et on a l'impression d'avoir Jean-Baptiste en maître d'œuvre qui hurle sur ses serviteurs que nous sommes. Et comme ça fait déjà depuis le début du carême qu'il nous répète ses ordres, nous avons peut-être la tentation de nous durcir l'oreille et de considérer que le contremaître peut toujours parler, rien ne changera. La deuxième erreur dans laquelle nous risquerions de tomber, à l'inverse de cette inaction un peu fataliste, c'est l'activisme. Nous avons cette tentation de nous dire qu'il faut vraiment prendre au pied de la lettre ce que nous dit Saint Jean-Baptiste et qu'il nous faut absolument tout réformer. Vous voyez, qu'il faut tout tailler, qu'il faut que tout change dans les moindres détails. Cette tentation, elle est grande, effectivement, devant le constat d'une société déliquescente, je connais bien clair, devant le constat également de la nullité de notre propre vie spirituelle, nous avons la tentation récurrente d'appliquer cette fameuse tabula rasa de la philosophie idéaliste. Tout est pourri, rien ne va plus, ma chère Simone. Prenons donc, comme le prévoit Saint Jean-Baptiste, l'appel à vanner, et rasons tout cela pour recommencer un monde nouveau sur des bases nouvelles. Ça, c'est ce qu'on ne cesse de nous raconter hors et dans l'Église. Mais avouons que nous avons nous-mêmes cette inclination à ce genre de choses. Cette perspective, elle est peut-être très noble, en vertu de sa radicalité, tout ce qui est radical est assez attirant, est assez attrayant, mais au fond, cette démarche est celle de l'adolescent. On garde bien les choses. L'adolescent, il sort de son rêve bleu, il se rend compte que le monde n'est pas exactement ce qu'il en percevait jusqu'alors, et il se trouve face à des aspérités, face à des choses qui le déçoivent. Un adolescent est très souvent déçu par ses propres parents, il est très déçu par toutes sortes de choses, et voilà, il se dit que la seule solution à adopter, c'est la révolution. Ça, c'est typique de l'adolescent un peu boutonneux qui se dit que désormais, lui qui a la vérité, va enfin faire changer ce monde-là que ses parents, grands-parents et aïeux ont été incapables de réformer. Il est le réformateur. Alors ça, et nous avons tous eu, nous avons tous, nous aurons tous cette tentation, cette velléité de se dire enfin, tout va changer grâce à nous. Oui, c'est effectivement assez noble, c'est effectivement un bon signe, un signe de vie. Je m'inquiéterais de ne pas voir cela chez certains adolescents. Et je m'inquiète de le voir, il faut bien dire, de moins en moins. Vous voyez, stage obligatoire par la phase « on va tout changer ». Les très souvent, sont dans un état larvesque qui fait qu'ils n'ont même pas cette espèce d'élan vital. Mais quand on aspire à tout changer et qu'on est encore un peu jeune, bien rapidement, on se rend compte qu'en fait, ce changement radical n'est pas possible. Ou au moins pas dans les détails auxquels on avait pensé. Alors, de deux choses l'une, soit on s'effondre, dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, soit on s'échappe de ce bas monde qui nous déçoit, par les moyens qu'on sait, radicaux, soit on s'en échappe par une voie un peu plus mitigée, qui est le fait de vivre dans des paradis artificiels, dans une sorte de suppléance à la réalité. Voilà, on refait le monde, ça ne coûte pas très cher, on vit dans une sorte de monde parallèle qui nous permet d'appliquer nos principes. Que la réalité ne veut pas que ces principes s'appliquent, eh bien, fuyons cette réalité dans un petit monde sympathique où là, les principes sont conformes à ce que nous aimerions. Soit, bon an, mal an, on finit par accepter la réalité et on finit bourgeois-bohème. Tout simplement, voyez, cette quantité de personnes qui en 68 étaient sur les barricades et qui hurlaient que tout allait changer, drapeau noir en avant, les cheveux jusqu'à mi-dos, et qui aujourd'hui sont tranquillement installés dans toutes sortes d'instances technocratiques. Alors je vous parle là d'une certaine tendance, d'une certaine branche à laquelle, je pense, la plupart d'entre vous n'adhèrent pas. Mais, vous voyez, je pense qu'il existe la même dérive diamétralement opposée, symétriquement opposée. C'est-à-dire qu'à la révolution et au rêve d'un monde nouveau sur des bases nouvelles, tendance gauchisante, disons, peut opposer le pendant inverse, c'est-à-dire la contre-révolution. Mais voyez-vous, je ne crois pas que ni révolution, ni contre-révolution, quand on y pense bien, correspondent exactement au projet divin. Parce que ni révolution, ni contre-révolution, qui en fait appartiennent au même principe, on va tout changer, et on va tout remettre selon un ordre, soit divin, soit anti-divin. En réalité, quand on regarde la manière que Dieu a d'organiser les choses, jamais il ne procède ainsi. Il procède par voie de réforme. Dieu est un réformateur. Mais ce n'est pas ni un révolutionnaire, ni un contre-révolutionnaire. Alors je vais vous décevoir, peut-être. Mais quand on considère l'action divine, lorsqu'une réalité que Dieu a créée dégénère, eh bien, Dieu ne la raye pas de la carte. Il se contente de la reprendre là où elle en est. Et Poussette, il purifie, il taille, mais jamais il n'arrache à la racine. Jamais. Très significatif que nous ayons à lire en ces temps d'avant et bientôt de Noël la généalogie du Seigneur Jésus. Parce que cette généalogie compte un certain nombre d'éléments pas très glorieux. Un certain nombre de filles publiques, un certain nombre de païens, ou un certain nombre de fidèles qui ont reçu énormément du Seigneur et qui n'ont pas toujours été à la hauteur. Le Seigneur Jésus, ou plutôt le Fils éternel, a bien voulu s'incarner dans cette branche très longue. Il a voulu être le rejeton de Jessé, il a voulu être cette greffe, ce greffon sur une branche qui était bien souvent tordue. Je crois qu'on a là, encore une fois, un résumé du mode d'opération divin. Dieu ne rase pas, Dieu rectifie, Dieu remet en place quelque chose qu'il décide de ne pas réduire à néant. Alors vous me direz, oui, enfin, d'accord pour la généalogie du Seigneur, d'accord pour le fait qu'effectivement Dieu n'ait pas rayé de la carte Adam et Ève, aussitôt le fruit croqué. Mais quand on considère l'histoire de Noé, quand on considère les 10 plaies d'Égypte, et la façon dont Dieu se débarrasse des premiers-nés de la race égyptienne. Là, on a quand même quelque chose d'un peu révolutionnaire et d'un tout petit peu radical. C'est vrai. Mais convenez qu'à chaque fois que Dieu utilise cette sorte de moyen de châtiment à grande échelle, si l'on veut, toujours il permet qu'un reliquat subsiste. Toujours. La race égyptienne, enfin, je ne sais pas si on peut parler de race, mais les Égyptiens, le peuple égyptien, on en a encore des descendants aujourd'hui, notamment avec les Coptes. Et les preuves que les 10 plaies d'Égypte n'ont pas rayé de la carte le peuple d'Égypte. Noé, précisément, c'est ce dernier surjon, c'est ce dernier élément, ce petit reste qui permettra à la race humaine de subsister après le déluge. Vous voyez que Dieu, même si parfois il taille sec, Dieu jamais n'arrache la racine. Dans le plan de sa révélation, c'est exactement la même chose. Dieu apporte petit à petit, par étape, un dévoilement de ce qu'il est et un dévoilement de ses desseins sur l'homme. Il va par étape parce que l'homme, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, a besoin de cela, parce que l'homme est lent, parce que nous avons un système rationnel qui a du mal à recevoir ces mystères insondables, mais jamais Dieu n'a, si vous voulez, c'est un système de poupée russe. Jamais Dieu ne rend caduque radicalement une loi ou une étape de la révélation. Le Seigneur Jésus dit lui-même, je suis venu accomplir et non pas abolir. Même si, encore une fois, il a émondé toute la révélation première, toute l'ancienne révélation mosaïque, de tout ce qu'elle avait de trop humain et d'encore imparfait et de figuratif. Il s'est tout de même servi de cela et on a raison de parler de judéo-christianisme. C'est vrai, nous sommes des fils de la race du peuple élu auquel appartenait le Seigneur Jésus. Même si, encore une fois, il y a bien une caducité de l'Ancienne Alliance sur bien des points, le cœur de l'Ancienne Alliance subsiste. C'est par le Décalogue et ce double commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Donc, le Seigneur dit quel est le cœur de l'Ancienne Alliance et en même temps le cœur de la Nouvelle Alliance. Voyez donc que Dieu procède toujours par voie de réforme dans la continuité. Tout à fait ce principe que le Saint-Père actuel entend suivre parle de l'herméneutique de la continuité contre l'herméneutique de rupture. C'est très bien vu. C'est tout à fait de Dieu, ça. Dieu établit des alliances qui ne sont jamais caduques, parce que les dons de Dieu sont sans repentance. Donc, après y avoir bien insisté, nous convenons que Dieu n'a pas l'habitude de tout casser. Je crois que cela est très instructif pour notre propre vie spirituelle. Facilement, nous avons, notamment au cours du temps de l'Avent, au cours du temps du Carême, devant le constat de notre propre misère, la velléité, encore une fois, de tout raser, de tout changer. Alors, nous prenons des mesures drastiques, du moins sur le papier, et nous sombrons dans une sorte d'activisme un peu fiévreux, pas très équilibré, qui du reste ne tient pas très longtemps. Je vous avais parlé il y a 3 semaines de la petite feuille de soin sur laquelle on vibre d'établir ou pas, en accord avec votre conscience et Saint-Esprit. Mais cette petite feuille-là, ou au moins si vous avez choisi une ou deux petites mesures, ou si vous avez été plus loin, vous êtes rendu compte que vous avez été incapable, bien souvent, de tenir, j'ai été incapable de tenir les engagements que j'avais pris au début de l'Avent. Alors vous voyez qu'il n'est pas la peine d'envisager toutes sortes de grands chantiers de restauration intérieure, je ne sais quoi. Sainte Thérèse d'Avila, la grande Sainte Thérèse, la réformatrice du Carmel Conseil, lorsqu'une sœur va la voir, qui était extrêmement zélée, qui était très dure avec elle-même, et qui rêvait de devenir une sainte et une sainte rapidement, eh bien, vint voir sa mère Sainte Thérèse et lui dit qu'elle avait eu des apparitions ou des monitions divines. Alors, voyant l'état de cette jeune novice, qui évidemment était très zélée, que lui a recommandé cette chère Thérèse d'Avila de prendre une bonne nuit, d'aller manger un bon steak et de lui en reparler le lendemain. Il s'avère que le lendemain, tout allait beaucoup mieux, plutôt aucune de ces munitions, aucune de ces apparitions ne s'avérait vraie. Vous voyez que nous avons parfois une tendance un petit peu excessive à une vie ascétique, mais ça ne dure pas très longtemps, en général. Et ce genre d'aventure qui est arrivée à la petite novice de Thérèse d'Avila est tout à fait révélatrice. Nous sombrons dans une espèce de vision éthérée de la réalité, enfin, voilà, et cela ne dure pas. Alors, ce que nous demande le Seigneur, c'est simplement de restaurer, de réformer sur un point ou sur 2 points notre vie spirituelle. C'est la grâce que, je crois, le Seigneur Jésus va nous offrir à Noël si nous le demandons avec ferveur, lui qui est, encore une fois, le surgeon venu se greffer sur cette branche totalement tordue. Il vient restaurer la famille de David. Il vient restaurer le peuple élu et partant toute l'humanité. Et il y va par petites touches. Il est lui-même qui est le Seigneur et Maître de tout. Eh bien, il peut nous offrir, si nous le voulons bien, encore une fois, en venant l'adorer à la crèche, cette même réforme progressive de l'intérieur, touche par touche. C'est comme ça que se conquiert la sainteté. Et ce n'est pas un grand coup de hache dans notre vie, parce que cela ne tiendrait pas très longtemps.